En cette veille de rentrée scolaire, permettez-moi de retrouver mes anciens réflexes de professeur de lettres et de vous recommander la lecture d'un des grands classiques du théâtre encagé, Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Certes, l'auteur n'est pas reconnu comme étant particulièrement chrétien, et de ce fait, j'aurais pu vous inviter à lire du Claudel ou du Bernanos. Mais à entendre ce dont il est question dans l'évangile de ce jour, vous admettrez que ce titre-là, « Les mains sales », s'imposait. De quoi est-il question dans cette pièce? Schématiquement, le drame voit s'opposer deux conceptions de la politique. D'une part, le pragmatisme humaniste, incarné par un vieux briscard, prêt à tous les compromis pour parvenir aux fins qu'il juge utiles. D'autre part, l'idéalisme intransigeant que défend un jeune homme résolu à se garder pur de toute compromission. Vous l'avez sans doute compris, aucune des deux positions n'étant tenable pour Sartre, l'issue de la confrontation ne peut être que fatale. Allez, pour achever de vous convaincre de lire la pièce, voici l'extrait d'une réplique de Œdereur, le vieux briscard, à Hugo, le jeune homme. Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars. Comme tu as peur de te salir les mains. Eh bien, reste pur. À quoi cela servirait-il? Et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté, c'est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire? Rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter des gants. Moi, j'ai les mains sales. Outre son titre, l'œuvre de Sartre n'est pas si étrangère qu'on peut le penser à ce que dit l'Évangile. D'un côté, les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem pour faire sa fête à Jésus, pour le piéger, et si ce n'est pour se débarrasser de lui physiquement, au moins pour saper son autorité en montrant qu'il est un hors-la-loi. De l'autre côté, Jésus et ses disciples avec leurs mains sales. On retrouve, semble-t-il, l'opposition de la pièce de Sartre. D'un côté, les séparés, c'est la traduction de pharisiens, ceux qui pensent rester fidèles à la loi de Moïse en respectant à la lettre cette loi. Ils pensent d'ailleurs bien faire. Le Deutéronome ne fait-il pas entendre cette injonction du prophète ? Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique, ainsi vous vivrez. Et le psaume d'insister, qui fait ainsi demeure inébranlable. Les pharisiens sont les héritiers de ceux qui, au temps des persécutions des rois hellénistiques, ont tenu bon, ont résisté à la dissolution de leur foi et à l'invasion de pratiques impures prônées par l'oppresseur. Ils croient ainsi devoir porter leur rigorisme en bandoulière comme un brevet de sainteté. De l'autre côté, Jésus et ses disciples apparaissent tout d'abord comme des laxistes, qui ne respectent pas les pratiques ancestrales jusqu'à se rendre impurs, c'est-à-dire inaptes à rendre un culte au Seigneur. Mais Jésus et les siens risquent également de contaminer le peuple en lui faisant croire que les pratiques rituelles de purification ne sont pas importantes. De l'impureté rituelle à l'impureté morale, il n'y a qu'un pas que les scribes et les pharisiens ont vite franchi. En Jésus, n'y aurait-il pas de la graine d'ivraie? Le suivre, ne serait-ce pas rompre avec les commandements du Seigneur et se corrompre avec l'étranger, donc trahir l'alliance conclue par Dieu avec son peuple Israël? Il est temps pour Jésus de faire une petite mise au point. Ce n'est pas parce qu'on a les mains sales qu'on est loin de Dieu, et ce n'est pas parce qu'on a les mains propres qu'on est intact de toute souillure morale. Contrairement à ses opposants, Jésus fait non seulement la distinction entre pureté rituelle et pureté morale, mais il établit entre elles une hiérarchie, la seconde étant plus importante que la première. En outre, il remet à leur place les pharisiens. Leur pratique de purification, qui s'impose à tous, alors que seuls les prêtres avaient au départ l'obligation de les suivre, ne sont finalement que des préceptes humains. Ils n'ont donc pas entendu la parole de Moïse, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne. » Par ailleurs, commentant à ses disciples la formule « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur », Jésus met l'accent sur l'essentiel. La pureté de l'homme, donc son aptitude à se faire proche de Dieu, est liée à son cœur, non à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Pour les Juifs, le cœur est le lieu de l'intelligence, de la volonté, de la décision. C'est donc le lieu du discernement moral. Comment agir de manière vivable, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu? D'abord, en se souciant d'accueillir la parole, puis de la mettre en pratique, en s'attachant à vivre le commandement d'amour de Dieu et du prochain. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, affirme ainsi saint Jacques pour illustrer cela. Il poursuit. C'est se garder sans tache au milieu du monde. Est-ce refuser d'avoir les mains sales? Non, si l'on entend par là ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit également, c'est-à-dire de se confronter aux misères de ce monde pour essayer d'y apporter un peu plus de justice et de paix. Je ne sais pas ce qu'il en est du fakir, mais le moine, par exemple, qui prie à l'abri des murs de Solesmes, a certainement les mains sales quand sa prière se fait l'écho des détresses humaines lues dans le journal ou entendues au confessionnal. La chef de service, qui tente de limiter les effets d'un management agressif imposé d'en haut, a elle aussi les mains sales. Mais l'un comme l'autre, parce qu'ils ont d'abord fait le choix de l'Évangile, un choix radical, l'un comme l'autre se situe davantage du côté des cœurs purs que des hypocrites dénoncés par Jésus. Ils agissent selon la logique du Christ, qui, le premier, n'a pas hésité à se compromettre avec les hommes pour vivre avec eux une alliance sans compromission. Si je peux me permettre d'émettre un vœu pour nous tous à l'aube de cette nouvelle année scolaire, le voici. Que le Seigneur nous donne un cœur capable de discerner les lieux où son amour est attendu. Et qu'il nous donne du cœur pour nous y rendre, avec le seul souci de mettre en pratique sa parole, toute sa parole et rien que sa parole. Quitte à paraître aux yeux du monde, avoir les mains sales. Amen.